RCF.
Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission dédiée à l'art oratoire au service de la qualité de vie au travail. Je suis Amandine Borne, spécialiste en management des compétences et des ressources humaines. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Johan Boileau, expert en art oratoire. Ensemble, nous allons explorer ce qu'est l'art oratoire et en quoi il peut participer à la qualité de vie au travail en entreprise. Une conversation qui promet d'être riche, concrète et inspirante pour tous ceux qui souhaitent faire grandir leur leadership. Vous écoutez Polychrome pour s'épanouir au travail sur RCF Alsace. Bienvenue dans cette émission.
Polychrome pour s'épanouir au travail, présenté par Amandine Borne sur RCF Alsace.
Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, bonjour Johan Boileau.
Bonjour Amandine.
Merci de répondre présent et d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'art oratoire et de qualité de vie au travail. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bien sûr, je m'appelle Johan Boileau, je suis champion d'éloquence et je suis formateur et coach en art oratoire. Concrètement, j'aide les dirigeants d'entreprise et les collaborateurs à avoir des prises de parole orales qui soient fluides, sereines, mais surtout impactantes.
Et alors, pour vous, Johan, c'est quoi le bien-être au travail ?
Alors, premièrement, le bien-être au travail, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel parce qu'il permet pour une entreprise de fédérer et d'impliquer les différents collaborateurs. Il se compose de deux éléments, un bien-être physique de mon point de vue, donc c'est-à-dire avoir de la sécurité au travail, avoir du matériel qui nous permet de nous préserver physiquement. Et le deuxième élément, c'est un bien-être psychologique, c'est-à-dire être bien dans sa tête, avoir les ressources, l'autonomie, les compétences pour bien faire son travail et avoir un sentiment d'appartenance.
Et alors, on parle d'art oratoire, mais ça veut dire quoi l'art oratoire et notamment au-delà de la performance scénique ?
C'est vrai que l'art oratoire s'est associé à l'éloquence, à la prise de parole sur scène. C'est en effet vrai, mais pas que. L'art oratoire, c'est tout simplement l'art de bien communiquer à l'oral. Donc évidemment, il y a de la scène, il y a de la prise de parole en public, mais pas que. On communique à l'oral dans beaucoup de circonstances au travail, que ce soit devant une machine à café, en réunion, pour animer un séminaire, mais aussi au-delà du travail.
Donc finalement, l'art oratoire en entreprise, c'est une prise de parole qui peut se faire soit en binôme, soit devant plusieurs personnes, mais pas forcément dans un contexte de scène.
Exactement. En fait, la scène, c'est très personnel. Une scène, c'est un endroit où l'on parle et où les gens nous écoutent. Donc fondamentalement, lorsque vous prenez un café avec vos collègues le matin et que vous racontez votre week-end, vous êtes sur scène avec un public.
Oui, donc finalement, on a du public tout le temps. On peut se mettre en scène constamment en entreprise.
Exactement. Et d'ailleurs, on met souvent un masque, on est souvent en scène. Et donc, c'est l'idée de travailler ça, d'être sur scène, en scène et de communier avec l'autre pour être impactant dans ses communications.
Et alors, en quoi la manière de parler, la manière d'écouter au travail va avoir une influence directement sur la qualité de vie au travail ?
Premièrement, le fait de parler. Il y a quelque chose qu'on appelle la glossophobie. Je ne sais pas si vous
en avez. La glossophobie, non, je ne connais pas du tout. Derrière, c'est une phobie de quelque chose.
Exactement. C'est tout simplement.
De glousser ?
Non, pas forcément. C'est la peur de parler en public. C'est une peur irrationnelle que nous avons pour beaucoup. Pour certains, ce n'est pas handicapant. Mais aujourd'hui, il y a une étude qui a été réalisée par le National Speech Anxiety Institute, d'avré pour mon accent anglais, en mai 2024, qui dit qu'aujourd'hui, 75% de la population mondiale serait atteinte de glossophobie, donc aurait du stress à l'idée de s'exprimer en public.
C'est énorme.
C'est énorme, et ça veut dire que pour une direction d'entreprise, un manager, 75% des salariés aujourd'hui seraient, on peut faire cette hypothèse-là, stressés, anxieux à l'idée de devoir s'exprimer.
Alors quand on parle de public, il y a quand même différents types de publics, parce que à la machine à café, c'est quand même plus simple de s'exprimer que dans une réunion.
Alors ça va dépendre des personnes, mais en effet, on va dire que les enjeux sont différents. Plus il va y avoir des enjeux important, plus la préparation à la prise de parole va nécessiter un travail. Souvent, on va se demander, mais quel est l'objectif derrière ma prise de parole ? Qu'est-ce que je souhaite que les autres retiennent ? Et quelle est l'action que je veux qu'ils fassent à l'issue de ma communication ?
Donc, ce que vous exprimez, il y a deux choses là où j'entends. J'entends l'enjeu de la communication et finalement, comment je vais communiquer au regard de cet enjeu.
Exactement. Donc, comment j'améliore et comment je communique à l'oral pour transmettre et diffuser un message et impliquer idéalement les autres. Mais vous m'avez parlé aussi d'écoute. L'écoute, c'est aussi un élément de la communication orale parce que je réagis à ce que me renvoient les autres, mon public. Et typiquement, on va citer Carl Rogers, que vous connaissez probablement, sur l'écoute active. Mmh. Il y a une différence entre entendre et écouter. J'entends, c'est passif. J'ai entendu les oiseaux. Je vous ai entendu me poser une question. Écouter, ça nécessite une implication. C'est un état d'esprit. Je suis pleinement avec vous et je vais adapter ma communication à ce que vous me renvoyez.
C'est vrai que quand on pense prise de parole en public, on pense à parler, mais finalement, dans le fait de parler, il y a d'abord l'écoute.
Exactement. Je ne vais pas parler de la même manière à une personne qui va être plutôt empathique, qui va avoir des besoins de sécurité, d'affection, qu'à une personne qui va être dans la blague, dans l'énergie. Et d'ailleurs, si je souhaite attendre une action de cette personne ou l'impliquer dans une tâche, j'ai tout intérêt à m'adapter à ses attentes à elle en termes de communication et pas à mes attentes à moi. C'est une erreur qu'on fait souvent. On a tendance à parler aux autres comme on aimerait qu'on nous parle à nous.
Donc dans l'écoute, il y a aussi une phase d'analyse pour une adaptation de sa parole, de son verbal, pour pouvoir être compris et entendu de la personne en face.
Exactement.
Et alors, on a parlé d'écoute, on a parlé de parole. Quels sont selon vous les principaux irritants qu'on va retrouver dans la communication, notamment en entreprise ?
Il y en a beaucoup. Un premier irritant pour moi, c'est le fait que la communication aujourd'hui, elle est faite principalement à l'écrit. Et lorsqu'on communique par écrit, on va se priver d'éléments importants de la communication. Mmh. Le non-verbal, ce que renvoie notre corps, notre regard, notre sourire, et le paraverbal, le sens qu'on va mettre, les intonations qu'on va mettre dans notre voix. Ce n'est pas la même chose quand je vous dis « Amandine, vous êtes en retard » ou « Amandine, vous êtes en retard ».
C'est vrai que je le prendrais un peu mieux sur la deuxième version.
J'imagine, et heureusement vous étiez à l'heure.
Effectivement, j'étais même en avance. Donc ce que vous êtes en train de dire aussi, c'est que finalement, il va y avoir aussi une adaptation. Et puis finalement, vous parlez de ton. En quoi finalement cet art oratoire peut être aussi utile pour les managers? Parce que vous preniez l'exemple du retard. Pourquoi c'est important pour les managers?
Bien, tout simplement parce que quand on est manager, on doit communiquer sur du multicanal, par écrit évidemment, sur du Teams, sur du mail, sur du SMS, mais pour avoir le plus d'impact, et ce sont pareil encore une fois des études qui le montrent, j'ai une étude de McKinsey qui date de l'année dernière, qui dit qu'aujourd'hui 65% des salariés se sentent plus impliqués quand on communique avec eux de vive voix. C'est énorme, et donc ça veut dire qu'un manager qui souhaite impliquer ses collaborateurs, il a plutôt intérêt à aller avoir une communication orale, verbale, qu'une communication écrite.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère.
Moi, es-tu heureux?
Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour des affaires. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire.
Qu'est-ce que tu veux, mon bien? Dans la vie, on fait ce qu'on veut, pas ce qu'on veut.
J'aurais voulu être un artiste.
Des professionnels transforment votre quotidien. Vous écoutez Polychrome pour s'épanouir au travail sur RCF Alsace.
On aborde aujourd'hui l'art oratoire au service de la qualité de vie au travail. Et pour cela, je suis accompagnée de notre invité, Johan Boileau, qui est expert en art oratoire. Alors, on a identifié la place de la parole en entreprise, des problèmes de communication qu'il peut y avoir également en entreprise, le fait que parler, ce n'est pas que parler, c'est aussi écouter. Mais alors, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi l'art oratoire peut améliorer la communication en entreprise ?
Premièrement, quand on parle d'art oratoire, l'art oratoire, je tiens à le repréciser, c'est l'art de bien parler à l'oral. Alors évidemment, ça peut être quand on est sur scène pour passer un message, mais ça peut être tout simplement pour réguler des tensions, des conflits avec les autres, ou pour faire en sorte que notre message soit correctement compris par l'interlocuteur.
Ok. En quoi l'art oratoire peut améliorer la communication en entreprise ?
Il y a plein de bénéfices possibles. Le premier élément, on a parlé de la glossophobie tout à l'heure, la peur qu'ont les collaborateurs de s'exprimer. Des collaborateurs qui ne s'expriment pas, c'est un problème pour l'entreprise. Ça veut dire des collaborateurs qui ne participent pas. Et donc on se prive d'idées, de productivité, on se prive de ressources clés de nos collaborateurs. Donc former les collaborateurs à prendre la parole, à oser s'exprimer, à gérer ce stress-là, c'est s'assurer qu'ils soient plus impliqués, qu'ils participent plus.
Donc c'est important pour les entreprises de faire parler les collaborateurs et donc d'offrir un cadre qui leur permet de s'exprimer et également de leur donner les outils pour leur faciliter la prise de parole.
Exactement, donc après il va y avoir des dispositifs de formation, de coaching, on va pouvoir y revenir. Mais il y a d'autres exemples que je peux vous donner pour améliorer la communication en entreprise. Par exemple l'articulation et l'expression. On a énormément de malentendus quand on communique. De base, les messages, on a une déperdition. J'ai une citation que je trouve incroyable de l'écrivain Bernard Werber qui nous dit que entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre.
Ah, c'est intéressant.
Donc on va travailler sur le choix des mots, sur l'articulation. Un exercice peut-être pour les auditeurs, une phrase qu'on peut dire mal articulée, que vous ne devriez pas comprendre, ce serait la suivante. La pinicho, loin nishba, mais ou nishlibou. Amandine, vous l'avez?
Pas du tout.
Je vais vous la refaire. La pinicho, loin nishba, mais ou nishlibou.
La pine. La femme du lapin?
Non. Évidemment, c'est le genre de phrase à ne pas dire. Dit correctement, ce serait la pinicho, loin nishba. Mais où niche le hibou?
Ah oui, ok. Fallait bien décomposer.
Exactement. Donc, c'est un autre outil. Pareil, ce qui est important, c'est la communication. Ça va permettre, le travail sur la communication va permettre une meilleure rétention des messages. Lorsqu'on prend la parole, de manière générale, on a entre 10 et 30% de ce que l'on dit qui est retenu par l'auditoire. C'est extrêmement faible.
C'est pas beaucoup.
C'est ridicule. Et donc, ça nécessite de s'assurer que les gens retiennent ce que vous voulez qu'ils retiennent.
Comment on fait pour qu'ils retiennent?
Eh bien, on a un travail de stratégie. Avant chaque prise de parole, il faut se demander quel est le message clé que je veux que mon auditoire retienne. Et ensuite, on va travailler sur comment je m'assure qu'ils le retiennent. Ça va travailler, on va pouvoir structurer notre récit autour de l'émotion, autour de la logique, autour de la crédibilité qu'on a à défendre tel ou tel sujet. Donc on a toute une partie vraiment de stratégie de communication orale.
Mais est-ce qu'on met aussi en place cette stratégie quand on a la machine à café? Ou est-ce qu'il y a quand même plutôt des situations spécifiques en entreprise où on met en place cette stratégie?
Alors, à la machine à café, on n'a peut-être pas envie que tout le monde retienne ce qui s'est passé le week-end dernier lors de notre soirée entre amis.
Si moi, quand je parle, j'ai envie quand même que les gens sachent.
Alors pour ça, on a différents outils. Le verbal de ce qu'on dit, c'est une manière de travailler. On a d'autres éléments qui vont nous permettre d'appuyer les messages. Le non-verbal, ce que dit notre corps. Là, vous ne voyez pas les auditeurs, mais je peux travailler avec mon corps pour qu'Amandine retienne.
Il fait beaucoup de gestes,
certains
je tiens
éléments.
À vous le dire.
Donc voilà, ça sert aussi. On a de la gestuelle qui va nous permettre de faire en sorte que les gens retiennent l'idée. Lorsque vous posez les mains sur une table, par exemple, dans la conscience collective, c'est une idée clé. C'est un élément que je dois retenir. Pareil dans le paraverbal, c'est tout ce qu'on peut faire avec sa voix. Je peux chuchoter, je peux parler fort, je peux accélérer le débit ou alors le ralentir. Toutes ces stratégies, ça va faire revenir l'auditoire et je vais pouvoir vous dire, Amandine, ce que je veux que vous reteniez maintenant, c'est que l'art oratoire, ça se travaille.
Donc en fait, vous conscientisez votre prise de parole en accentuant certains mots, en changeant le rythme, en adaptant votre corps pour finalement avoir plus d'impact dans les mots qui sont dits et pour que ce soit mieux perçu, retenu, entendu.
Exactement, c'est un exercice total entre la voix, le corps, le verbal, la stratégie, la gestion du stress et une adaptation en temps réel à ce que nous renvoie l'auditoire.
Mais c'est fatigant tout ça si on doit penser à tout ça quand on parle.
Au début, on y pense. À l'issue, ça devient naturel une fois qu'on a travaillé, qu'on s'est formé, qu'on a été accompagné sur le sujet.
Comment on se forme? C'est quoi des techniques justement pour pouvoir développer son art oratoire?
Alors l'art oratoire, il y a différentes composantes. Le premier élément, ça va être la gestion du stress, la glossophobie. Pour cet élément-là, souvent on va travailler sur du coaching individuel. D'où vient le stress? Quelle est la peur? Et on va casser cette croyance qui est de dire « il y a des gens qui ne sont pas stressés avant de monter sur scène, c'est faux ». Prenez Sarah Bernhardt, la comédienne du 19e siècle. Elle a une histoire qu'elle raconte qui est fantastique. Elle accueille, avant une de ses tournées, une de ses jeunes stagiaires en coulisses qui vient la voir en lui disant « Vous savez, moi, avant de monter sur scène, je ne suis jamais stressée. » Et Sarah Bernhardt lui répond « Vous verrez, ma petite, ça viendra avec le talent. » Donc pour le stress, c'est du coaching. Ensuite, pour les techniques, comment j'aligne? Je fais ce qu'on appelle de la congruence entre la voix, le corps, ce que je veux dire, cette stratégie de communication. On est vraiment sur de la formation. À premier niveau, je pense que tout le monde en entreprise a intérêt à bien savoir parler. Et enfin, pour les managers, on va aller plus loin, on peut faire des techniques de rhétorique, de storytelling pour embarquer et impliquer son auditoire.
Du storytelling, c'est quoi du storytelling ?
Le storytelling, c'est tout simplement parler d'une histoire plutôt que de présenter quelque chose de factuel et de manière classique et traditionnelle. On a tendance à aimer les histoires depuis qu'on est jeune. On nous raconte,
des histoires et parfois des belles histoires.
Et voilà, donc on est attentif et on aime les histoires, on retient mieux.
Et donc les histoires, on retient mieux, mais comment on fait pour construire une histoire et une histoire vraie finalement ? Parce que l'idée, c'est pas de raconter des choses qui sont fausses.
Ah ben exactement, alors les histoires vraies, faut que ça soit sincère, mais c'est vraiment des techniques de structuration du récit. La structure qu'on a dans les contes, quand on est enfant, elle est toujours viable. J'ai une situation initiale, j'ai un événement déclencheur, je vais avoir des péripéties, où là mon auditoire va être attentif, et puis des situations de résolution et une conclusion qui est souvent positive. Tout, n'importe quel sujet peut-être travailler de manière à raconter une histoire plutôt qu'à présenter des faits.
Et donc ça, c'est ce qu'on va travailler, c'est une des techniques qu'on travaille dans l'art oratoire.
Exactement.
Est-ce qu'il y a d'autres techniques encore ?
Ça va être vraiment la prise en compte d'un espace scénique. Si on doit travailler sur scène, on va pouvoir ajouter la posture, comment je déplace, quelle est la technique du regard. Lorsqu'on veut passer un message, il est important de regarder l'auditeur dans les yeux. Difficile quand j'ai 10 personnes dans la salle, comment je fais ? Eh bien, on a des techniques de positionnement de regard. Sur un petit groupe, on va aussi dire que pour passer un message, il faut que le regard il soit prolongé. Amandine, si je ne vous regarde pas au moins 5 secondes lorsque je vous parle, le message ne vous est pas adressé.
Mais si le message s'adresse à tout le monde, ça veut dire qu'il faut balayer du regard l'ensemble de la pièce ?
Oui, tout en gardant un point fixe. Si je veux parler par exemple à une partie à l'est de mon auditoire, je vais parler à l'est, mais je vais parler pendant 10 secondes, peut-être en fixant cette zone. Puis seulement, je vais changer de zone. On ne balaye pas à droite à gauche, nous ne sommes pas des essuie-glaces.
J'ai l'image des essuie-glaces, effectivement.
Donc surtout, ne faites pas ça. C'est une mauvaise technique.
Donc plutôt un point fixe, regarder, éventuellement après changer de zone, de nouveau un point fixe, mais pas balayer d'un
c'est
côté de l'autre.
C'est exactement ça, tout à fait.
Pour s'épanouir au travail, RCF Alsace.
On poursuit notre discussion avec Yoann Boileau, expert en art oratoire, sur le thème de l'art oratoire au service de la qualité de vie au travail. Alors on a identifié la place de la parole en entreprise, on a vu des exemples concrets où l'art oratoire peut aider. Mais alors, par où commencer lorsqu'une organisation souhaite améliorer la qualité de ses échanges internes ?
Bon, le premier élément, ça va être de faire un audit. C'est ce qu'on a dans les audits QVT. D'ailleurs, on parle de la voix du salarié. Voilà. Mmh. Pas de hasard. Et donc, on va identifier où est-ce qu'il y a des sources de stress, des sources de malaise, des sources de tension. Et donc, l'art oratoire va nous permettre d'aller travailler ces sujets-là. Donc, je vous l'ai dit, pour de la prise de parole en public, on va pouvoir avoir des actions sur la gestion du stress, sur la manière de structurer un récit. On va aussi pouvoir travailler sur les besoins en communication. Si je veux parler comme l'autre aimerait qu'on lui parle, je vais peut-être travailler avec des outils comme le DISC ou le process comme modèle. Ou pour la gestion des conflits, encore une fois, qui est de la communication orale, on va pouvoir faire des choses autour de la communication non violente, qui est une composante.
La CNV. Et alors, quels sont les premiers bénéfices observables, justement, grâce à ces techniques d'art oratoire ?
Alors, le premier, c'est une augmentation de la participation. Les gens osent plus, les collaborateurs prennent plus la parole. Autre élément, si les gens sont moins stressés à cette idée-là, on a donc une augmentation de la sérénité de vos collaborateurs. Donc des gens qui parlent plus, qui sont plus sereins au travail. On a des baisses de conflits et de tensions, si on se forme sur certaines thématiques comme le CNV ou le DISC. Et donc une meilleure écoute et une meilleure collaboration globale des collaborateurs. Et puis pour les dirigeants qui nous écoutent, la plupart, 55% des leaders, toujours d'après McKinsey, indiquent que leur succès est lié à une capacité à communiquer de manière claire et percutante. Donc c'est un outil de leadership.
On entend effectivement souvent que les problématiques dans les organisations, en tout cas dans les entreprises, c'est la communication et l'organisation. Donc ça fait partie des problématiques à travailler.
Exactement, et notamment quand on communique que par écrit, on a une déperdition du message. Donc il est normal que ça génère des conflits et des malentendus.
C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure avec le langage paraverbal et non-verbal qui va appuyer en fait le message pour être mieux compris.
C'est exact.
Et alors, quel conseil simple vous pourriez donner à un manager ou aux entreprises par rapport à la communication?
Premier élément, toujours penser objectif. Rappelez-vous quel est le message que je veux que les autres retiennent. Ne pas prendre la parole pour prendre la parole. Quelle est l'utilité de cette prise de parole-là?
Pas combler du vide, mais donner un message.
Exactement. Deuxième élément, lorsque vous racontez une histoire, un récit, arbitrez entre ce qu'on appelle la couleur et l'avancée. Lorsque je parle, il va falloir que je donne du détail, c'est ce qu'on appelle colorer le récit, et il va falloir à un moment que le récit avance. Donc on parle d'avancement. Donc il faut donner du détail, mais pas trop, sous risque de perdre l'auditoire, et avancer, mais pas trop, sous risque de perdre l'auditoire. Donc colorer, donner du détail, mais garder en tête votre objectif de récit.
Comment on fait pour ajuster et équilibrer par rapport à ces deux points-là?
Eh bien, ça se voit généralement dans le regard de votre auditeur. Les auditeurs qui commencent à se désintéresser, c'est que vous avez donné généralement trop de détails et que vous n'allez pas dans le cœur du sujet.
Mais quand vous parlez à des personnes différentes, vous ne pouvez pas forcément adapter à chacun si vous avez plusieurs personnes qui sont en face de vous. Comment on fait pour s'adapter?
Alors, la première étape quand on est manager, c'est de connaître ses collaborateurs. Mmh. Donc encore une fois, des PCM, des disques, ce type d'outils vont nous permettre d'identifier les préférences de communication des autres et donc de parler à chacun comme il aimerait qu'on lui parle.
Donc, bien connaître son auditoire, en tout cas en entreprise, va faciliter la prise de parole pour savoir est-ce que je vais mettre plus de détails ou plus d'avancées. Mais si c'est moitié-moitié, comment je fais?
Il y a un moment, c'est un travail collectif. Là, c'est vraiment de l'ajustement. On va vraiment prendre le pont, on va regarder un moment, qu'importe les préférences de communication des autres. Quand les gens commencent à décrocher, à faire autre chose, c'est qu'on a perdu notre auditoire. Donc là, c'est un travail d'aller chercher la personne en travaillant sur le paraverbal, en l'impliquant, en lui posant une question. Amandine, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Par exemple, ou en faisant le silence, une arme stratégique paraverbale pour capter l'auditoire.
En quoi c'est une arme stratégique, le silence?
Le silence, souvent on en a peur.
Le vide?
C'est la peur du vide, c'est gênant. Là, si l'on se tait à la radio, les auditeurs vont arrêter d'écouter. Et pourtant, il a une utilité qui est double. Le premier, c'est qu'il permet à l'auditeur de se poser, de respirer, de reprendre ses esprits. Et pour l'auditoire, ça va lui permettre de comprendre et de retenir le message qui a été dit. Et notamment, après un message clé, mettez un silence.
Pour qu'il y ait une intégration qui se fasse, du coup.
Exactement. Et n'oubliez pas, les mots ne suffisent pas, donc intégrer de la voix, de la variation verbale, du corporel, pour ancrer encore plus les messages clés.
Donc là, un conseil que vous donneriez aux managers et aux entreprises, c'est d'introduire aussi du silence, notamment après un message clé.
Tout à fait.
D'autres conseils que vous pourriez donner aussi aux entreprises, aux managers?
Non. Donc je pense que j'ai noté, toujours penser objectif, intégrer les préférences de communication, colorer, avancer, et les mots ne suffisent pas, donc parler de vive voix quand c'est possible. Plutôt que de faire un mail, prenez votre téléphone ou allez voir votre collaborateur.
Ça va quand même vraiment à contre-courant, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup par la communication simplifiée avec les WhatsApp, avec les mails qui sont envoyés, avec l'infobésité même, on dit, hein, parce que finalement on met tout le monde en copie dans les mails. Là, vous préconisez quand même plutôt un retour à la communication directe.
Exactement, c'est vraiment celle qui va impliquer le plus les collaborateurs et qui va éviter la déperdition du message. C'est la plus efficace.
Et alors, à quoi ça ressemblerait une entreprise où l'art oratoire est réellement mis au service de la qualité de vie au travail?
Alors, c'est une entreprise dans laquelle il y a une liberté d'expression, il y a un enthousiasme des collaborateurs à s'exprimer, à prendre la parole. C'est une entreprise dans laquelle les messages vont être peut-être compris du premier coup, ce qui va forcément faire baisser les tensions, où les différences d'autrui sont acceptées, donc on va intégrer l'autre comme il est pour le capter dans nos prises de parole. Et enfin, une entreprise où chacun est engagé et où le leader est charismatique à l'oral. Il est fédérateur.
Et en conclusion, parmi tout ce qu'on s'est dit, quels sont les points clés à retenir, Johan?
Prendre la parole, ce n'est pas que parler, c'est aussi écouter. Deuxième point, les 3/4 de vos collaborateurs aujourd'hui sont en souffrance à l'idée de prendre la parole, donc ne les laissez pas en difficulté, formez-les et aider-les à s'exprimer avec aisance et sérénité. Et le troisième élément sur lequel j'insiste, lorsqu'on assiste à des réunions, on a tendance toujours à lire les slides. Cette malédiction du PowerPoint.
PowerPoint.
Un message pour tous les managers et tous ceux qui animent des réunions. Vous n'êtes pas des PDF. Sinon, vous m'envoyez le support, je le lis, à la limite, on discute dessus. Donnez du sens, colorez le message, apportez, vous êtes un artiste, c'est vous qui donnez du sens, qui donnez de la couleur à ce que vous présentez.
C'était Polychrome pour S'épanouir au travail. Merci à vous tous et vous toutes d'avoir écouté cette émission consacrée à l'art oratoire au service de la qualité de vie au travail. Un grand merci à Johan Boileau, expert en art oratoire, pour la richesse de ses partages, ses éclairages concrets et son engagement au service de l'épanouissement professionnel. Nous avons exploré ensemble les impacts de la communication en entreprise. Nous avons identifié des leviers, des actions relevant de l'art oratoire afin d'améliorer la communication. J'aimerais également remercier Théo Giandoni pour l'assistance technique et la qualité de son accompagnement tout au long de cette émission. Si cet épisode vous a inspiré, vous pouvez le partager autour de vous, en discuter avec vos équipes et poursuivre la réflexion dans vos pratiques managériales. Pour cela, retrouvez le podcast sur notre site internet rcf.fr/alsace. Je vous donne rendez-vous le mois prochain et d'ici là, prenez soin de vous et de votre art oratoire.